Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sport préférée, bienvenue dans Temps Additionnel. Raphaël, à votre service pour vous accompagner tout au long de cette chronique, pour vous partager les actus sport qui ont marqué la semaine et celles qui la marqueront jusqu'à la prochaine émission. On est ensemble pendant environ un quart d'heure, 20 minutes pour passer en revue tout ça. Je ne suis, encore une fois, pas tout seul. Alexandre, qui était présent la semaine dernière, est de retour pour nous apporter sa vision de ce qui s'est passé cette semaine. Salut Alexandre, comment ça va ?
Salut Raphaël, ça va, on peut dire bien, puisqu'il y aura des choses négatives à aborder comme des points positifs, mais dans l'ensemble ça va.
Parfait. Donc, au menu, aujourd'hui, des nouvelles de nos violets, évidemment, avec le match du week-end contre Lens, le dispositif mis en place, quelle projection aussi pour cette équipe qui, on va pas se mentir, est en plein doute. On traitera aussi tout ça en première partie d'émission. Ensuite, heureusement que nos stadistes sont là pour régaler les fans de sport de notre belle ville rose. Leur victoire contre le Racing qui vient confirmer leur dynamique, on y reviendra aussi. Comment parler de l'actu sport de la semaine sans parler du sacre européen de nos handballeurs bleus à l'issue d'un match fou qui a fait vibrer tout le monde, autant les spécialistes du hand comme les novices qui regardaient le match par hasard. Le tennis aussi est à la page avec la victoire de Sinner à l'Open d'Australie qui s'était défait de la légende Djokovic, on le rappelle. On abordera donc le match de la nouvelle mascotte du tennis italien. Pour commencer le podcast, on aimerait dire qu'Honor, c'était les corons.
Et qu'au stadium, c'est là que nous perdons.
La défaite du TEF face à Lens ce dimanche. Un petit point de classement avant de parler de la rencontre. Le TEF est maintenant 14e avec 17 points, à 1 point du premier. Toulouse, qui affrontait donc le 8e de Ligue 1, Lens, qui voulait se relancer après deux défaites consécutives. Lens qui s'est bien relancé donc avec la victoire 2-0. On a vu au début de la rencontre un vrai engagement dans les 10 premières minutes des hommes de Carles Martinez-Novel, puis plus rien. Quelques éclats sur le côté gauche de la recrue hivernale Babica, on y reviendra. Il nous a animé l'activité offensive du TEF, un match très solide aussi, on le rappelle du Pichun Mawisa, qui a été à la hauteur franchement. Mais on l'a vu, ce n'est pas assez pour ne serait-ce penser à accrocher cette solide équipe de Lens, score final 2-0, pas mérité selon l'entraîneur espagnol, on y reviendra d'ailleurs. Mais d'abord, je reviens vers toi Alexandre pour nous parler un peu du contexte du match parce que le contexte a été assez spécial et assez critiqué sur les réseaux.
Je vais parler du contexte entre TFC et Lens. C'est une rencontre qui paraît banale pour certains, mais pour d'autres, y compris la préfecture de Haute-Garonne, comme un match à risque. En effet, la préfecture a appliqué un dispositif contre le hooliganisme dans ce match qui est jugé à risque. Bien sûr, les supporters toulousains conteste, puisque les Lensois et Toulousains n'ont pas cette tension. Mais bon, voilà, on peut dire que généralement, ils s'activent quand il y a des tensions entre les supporters des deux camps. Et voilà, bon. Pour moi, je pense que le dispositif match à risque n'était pas nécessaire pour cette rencontre, puisqu'il n'y a généralement pas de tension connue entre Lensois et les Toulousains. Tu l'as vu, Raphaël ?
Effectivement, je l'ai vu. C'était assez étonnant. Donc, pour des matchs, comme tu l'as dit, contre des rivaux historiques, contre Montpellier, contre Bordeaux, ça aurait pu être nécessaire. Mais le match l'a prouvé. Hein. Les débordements n'ont pas eu lieu. Donc, c'était assez étrange. Mais ça a quand même permis d'avoir une bonne ambiance au stadium. Et d'ailleurs, l'ambiance, parle-nous-en, parce que moi, j'ai regardé le match à la télé et c'est vrai que parfois, j'ai moins entendu les Indians que d'habitude. J'ai plus beaucoup entendu les supporters de Lens. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'ambiance ?
Alors, bien sûr, vu que j'étais présent au match en tant qu'abonné au Virage Bristaton, pour être honnête, niveau ambiance, le parkage lensois était au rendez-vous. On les a bien entendus tout au long du match. Malgré un Virage Brist parfois silencieux, relancé plusieurs fois par le capot des Indians, l'ambiance était revenue sur certains champs, mais sans plus. Si tu veux, j'ai vu que ça n'a pas duré longtemps puisqu'une horde de supporters ont quitté 20 minutes avant la fin, non c'est pas une blague, l'enceinte du stadium frustrée par le manque d'initiative de nos violets face aux Lensois. Et maintenant, je vais parler aux auditeurs. Figurez-vous qu'on a été noté par un dispositif mis en place par la LFP qui s'appelle le championnat des tribunes. Et j'ai remarqué que le capot, mécontent du manque d'enthousiasme en Virage Brice, l'a sans cesse rappelé. Donc, si vous voulez mieux connaître le sujet, je vous conseille de faire un tour sur la chaîne YouTube de Remontada.
Revenons aussi sur les propos de l'entraîneur qui qualifie cette défaite de pas méritée. On a déjà entendu ce genre de propos à la suite de défaites du TEF. Le ras-le-bol, j'imagine, continue des côtés des supporters. Qu'en penses-tu, Alex ?
Honnêtement, si je dois te parler de Carles Martinez-Novel, il m'énerve un peu. Je veux dire, je ne vais pas surfer sur la vague parce que beaucoup de supporters le critiquent, que je vais mettre à le critiquer. On critique parce qu'on sait que ce n'est pas un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. De base, c'est un entraîneur adjoint. Aussi, le problème, c'est pas tant l'équipe et les résultats. Le problème, c'est la politique de l'autruche qui met en place. Ça veut dire que Carles Martinez Nouvelle est sûrement conscient de ses erreurs, mais il ne veut pas l'admettre. Et s'il l'admet, ça veut dire que pour Comoli, c'est un peu une défaite pour Comoli et aussi pour la data, puisqu'il faut savoir que c'est la clé principale du projet mis en place par le TFC. Donc c'est surtout ça en fait qui me contrarie, c'est de voir que le TFC préfère penser à l'Europa League et non pas aux problèmes internes. On l'a vu, hein, contre Monaco, on a perdu 2-1, et Comoli, pour lui, c'était la défaite de trop. C'est pour ça qu'en interne, il a complètement, si je peux dire, il a complètement cassé Carles Martinez Nouvelle. Mais bien sûr, ils n'ont pas voulu nous le montrer à l'extérieur, ça veut dire sur le terrain, et c'est ça en fait le problème.
Merci Alexandre, c'est vrai que avant la fin de la rencontre, on a vu une horde de supporters quitter l'enceinte du stadium. J'ai vu à la télé, le virage Brice a été à moitié rempli. Donc on constate physiquement ce mécontentement, pas forcément sur Twitter ou sur les réseaux. Et je l'ai constaté aussi, c'est dur aussi de voir une équipe qui, pendant les 10 premières minutes, nous montre de belles choses, nous crée de l'espoir pour peut-être accrocher un nul face à une grosse équipe de Lens, malgré les deux défaites qu'ils avaient eues avant. Ça reste quand même une grosse équipe. Ils nous donnent espoir pendant les 10 premières minutes. Puis plus rien, c'est souvent ça. On arrive souvent à tenir vers la 80e, mais Lens était beaucoup trop fort. Je pense que c'est un problème de, en interne. Quand on voit qu'on perd, on perd 1-0 à la 70e minute, que l'entraîneur fait rentrer un défenseur, on comprend plus forcément la tactique de jeu que veut imposer l'entraîneur. Et ça se voit aussi sur les joueurs. C'est souvent beaucoup d'exploits individuels, comme on l'a vu sur le côté avec Babika, et peu d'exploits collectifs. On espère, sur des pénaltys, ou sur qui est d'ailleurs assez litigieux, on espère sur des pénaltys revenir au score, on n'y arrive même pas. Donc il n'y a même pas de vrai leadership dans cette équipe. L'entraîneur, on le voit à la télé, je ne sais pas si tu l'as ressenti toi au stadium, mais il renvoie à un stress constant. Il n'est pas serein comme les entraîneurs devraient être. Donc assez compliqué, j'arrive pas à savoir quand va s'arrêter cette déroute, parce que tant qu'il y aura pas de changement, je pense pas qu'il y ait de victoire à la clé jusqu'à la fin de la saison.
Oui, voilà, et on a vu que Carles Martinez Nouvelle reste encore au TFC, c'est encore l'entraîneur. Pourtant, il nous a apporté pas de bons résultats en Ligue 1, mais en revanche, il a l'immunité Europa League, si je peux dire, puisque Comoli préfère le garder, je pense, juste pour ses bons résultats en Europa League. Et bien sûr, il fait confiance à la data. Donc, et je pense même que c'est plus possible de virer un entraîneur avant la fin de la saison. C'est ce que Redbird a fait.
Oui, c'est ça. C'est que en Europa League, c'est assez paradoxal, puisqu'on arrive à aller battre des Liverpool chez nous. Mais tenir face à des Lensois mal en point qui sont sur deux défaites consécutives, c'est assez paradoxal. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai ressenti la frustration, parce que les supporters savent de quoi cette équipe est capable, mais on dirait que cette équipe, elle est mal gérée de l'intérieur, et ça se ressent sur le terrain avec une envie dans les 10 premières minutes qui disparaît, qui est assez faible. Et c'est là où on voit aussi l'absence des cadres qui étaient là l'année dernière pour remotiver les troupes. Et je trouve ça très dommage du coup qu'on ait... Non. Et c'est là aussi où on voit l'absence des cadres qui étaient présents l'année dernière, qui réussissaient à encadrer le groupe, à faire quelque chose de cette équipe. On l'a vu même au niveau du jeu, c'était beaucoup plus vers l'avant. Donc l'absence de ces cadres commence à manquer, et ça va... la fin de saison va être très 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 longue.
Oui, voilà, comme tu as dit, il y a un manque de leadership, hein, comme on avait vu avec Brecht de Gueurin en Coupe de France. Normalement, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, où bien sûr, il commence à remotiver les troupes, il commence à switcher en anglais comme en français. Tu sens que vraiment, il joue avec le cœur, c'est un vrai capitaine. Bien sûr, Siro a aussi le rôle de capitaine, mais je pense qu'il n'a pas vraiment ce leadership qu'on attendait tous côté TFC.
Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, la fin de saison va être très longue. En tout cas, un peu de positif maintenant avec nos stadistes et leur victoire serrée 20-27 à l'extérieur contre les premiers du championnat, le Racing. Une victoire qui fait du bien à nos joueurs et qui confirme après leur victoire de la semaine dernière en Champions Cup contre Bath. Ça avait mal commencé pourtant avec un essai transformé des Racingmen à la 5e minute, on le rappelle, et le score à la mi-temps favorable aux blancs et bleus, puisque le Racing menait 13-12, Mais c'est sans compter sur la pépite italienne Anjka Pozzo qui va venir sonner la fin de la rencontre pour marquer l'essai du 20-27. Donc dans l'ensemble, le match a été assez serré, mais les offensives toulousaines ont payé dans l'enceinte de la Paris Défense Arena sur ce fameux terrain synthétique. Un point classement, le stade tient sa quatrième place, à seulement maintenant 4 points du leader, le Racing.
Permets-moi de rappeler aux auditeurs que le top 14 ne se joue pas qu'au classement. Nous ne sommes pas premiers du championnat, certes, mais pas d'inquiétude, puisque les 6 premières équipes joueront les phases finales pour espérer remporter le fameux bouclier de Brennus, gagné 22 fois par nos stadistes, on le rappelle.
Et oui, on espère qu'ils le gagneront encore une fois cette année. Le Hand, maintenant, comment passer à côté le premier gros titre français en 2024 ? On espère que ce sera de bon augure pour cet été. En effet, les Bleus s'imposent 33-31 en prolongation face à des Danois pour la plupart du temps au-dessus au niveau de l'efficacité. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Des Danois bien aidés par leur gardien et l'homme du match à la suite de la rencontre. Donc un des acteurs aussi qui a fait la beauté de cette finale.
Tout à fait, Raphaël. Nos Bleus se sont vengés contre ces mêmes Danois qui, on le rappelle une nouvelle fois, nous ont chippé le titre de champion du monde. Je sais, ça fait mal, mais bon, maintenant, place à la rigolade, puisque cette fois, c'est nous qui méritons aussi de briller. Et le peuple demande, Raphaël, si tu peux raconter plus en détail ce match incroyable de nos Bleus.
Franchement, le match, pour l'avoir vécu à travers un écran, et moi qui regarde pas souvent le handball, j'ai vraiment vibré derrière cette équipe, puisque... Le match était serré de bout en bout, ça marquait de l'autre côté. J'ai senti quand même les Danois au-dessus, notamment donc aidés par l'homme du match, le gardien, qui a été excellent durant la rencontre. Mais au mental, on est allé chercher les prolongations comme on a fait en demi-finale contre la Suède, avec ce fameux coup franc qui a tourné partout, je suis sûr que vous l'avez vu. Donc on est allé chercher ça au mental, ça m'a fait plaisir qu'on lâche pas jusqu'à la dernière minute. Et les prolongations après ont été facilement maîtrisées, on va dire, par les Bleus parce qu'ils ont marqué le dernier but et psychologiquement, on le sait, c'est plus facile d'entamer une prolongation quand tu finis les minutes d'avant dans un temps fort. Donc ça a été vraiment une régalade de voir ce match et je regarderai plus de matchs de handball à l'avenir si ça se passe comme ça à chaque fois. Un mot tennis et un nouvel espoir pour le tennis italien. Espoir quand même assez confirmé puisqu'il est classé 4e mondial. Mais bref, Yannick Sinner, 22 ans, et vainqueur de l'Open d'Australie face à Daniil Medvedev. Une remontada incroyable, hein, puisqu'il était mené 2-7 à 0 avant sa victoire 3-7 à 2. D'ailleurs, ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu un des trois aliens que sont Federer, Nadal ou Djokovic en finale de l'US Open. On assiste aussi donc à une page de l'histoire qui se ferme.
Et on a une début d'histoire aussi, puisque Yannick Sinner est le premier Italien à remporter l'Open d'Australie. Donc ça reste quand même une page d'histoire pour nos chers Italiens.
Ça, c'est beau. Et pour finir un peu d'actu, Sport Auto avec la F1 qui reprendra le samedi 2 mars, on le rappelle, pour le Grand Prix de Bahreïn. Du côté Ferrari, ça bougera pas pour Charles Leclerc puisqu'il prolonge son contrat chez la Scuderia jusqu'en 2027. C'est aussi le cas pour Lando Norris chez McLaren. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle saison. On espère qu'elle sera un peu plus alléchante sur le papier que la saison dernière parce qu'on va pas se mentir, on s'est un peu ennuyé la saison dernière. On a un espoir de concurrence chez les Flèches d'Argent qui vont peut-être tenter de revenir à leur meilleur niveau comme chaque année depuis les nouvelles réglementations. Et aussi évidemment un rêve de titre depuis si longtemps, chez les Rouges depuis Kimi Raikkonen, chez Ferrari. D'ici là, on aura plein d'autres infos et on reviendra vers vous pour vous tenir au courant. C'est déjà la fin de l'émission. Merci encore à l'équipe de Radio Esprit Occitanie et merci à Alexandre pour tes précieuses infos.
Merci beaucoup Raphaël, c'était encore une fois un vrai plaisir de participer. On a certes abordé pas mal de points négatifs, on a même fait un débat ensemble, toi et moi, sur la situation du TFC. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait puisqu'on a parlé de points positifs et c'est ça qui est beau dans le sport.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio, on vous attend nombreux. En attendant, prenez soin de vous, c'était Raphaël pour Radio Esprit Occitanie. À la semaine prochaine.